Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous affecte tous, peut-être plus moi en particulier, je sais pas. On va parler du stress, des enjeux autour de ça. On va parler des causes du stress. Puis d'un des problèmes, parce que dans nos sociétés, moi, une chose qui me stresse le plus, c'est de savoir que je suis stressé puis qu'il faudrait que je le sois pas. On va essayer d'explorer un peu c'est quoi le stress. Est-ce qu'il y a pas des aspects positifs au stress? De quelle manière ça affecte la société? Ce qu'on devrait faire normativement pour améliorer la situation puis vivre mieux notre stress? Et organiser nos institutions de manière à favoriser une vie moins stressée ou mieux stressée, si on veut. Vous allez voir tout le détail parce qu'aujourd'hui, je parle avec une collègue, avec une amie chercheuse sur le stress, Laurence Dumont, avec qui j'ai eu un excellent échange absolument enrichissant sur toutes ces questions-là, sur c'est quoi le stress, c'est quoi les causes, est-ce qu'il y a du bon stress, du mauvais stress et surtout les enjeux sociaux, les enjeux politiques. On va parler des médias. Est-ce que les médias ont un rôle pour nous stresser? Est-ce qu'il y a des incitatifs? Qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça? Est-ce que des questions comme ou des stratégies qui sont souvent mobilisées comme la pleine conscience, la méditation, sont des éléments qui peuvent radicalement nous aider? Ou est-ce que c'est pas un peu un genre de pansement qui aide vraiment, mais sur une société qui a des incitatifs problématiques? Donc, c'est toutes ces questions-là qui, ensemble, vont être explorées dans cet échange fascinant. Donc, sans plus attendre, une discussion avec Laurence sur la question du stress. Salut Laurence, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Ça va très bien, merci. C'est content qu'on prenne enfin le temps de parler ensemble d'un sujet qui te tient absolument à cœur et qui me tient aussi, qui me rend très curieux, la question du stress qui disparaît tranquillement maintenant que j'ai fini ma thèse. Mais donc avant qu'on se lance dans toutes les questions que j'ai sur ce sujet-là, peux-tu te présenter, dire qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet-là et aussi d'où est-ce qu'on se connaît?
Super. Donc, moi, je fais présentement un stage postdoctoral au Centre d'études sur le stress humain. Je me concentre précisément sur le stress puis la cognition au travail. Donc, j'ai un background un peu plus neuropsychologie, puis j'ai gravité vers l'étude du stress. Pour moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de comprendre l'humain dans une situation de changement, dans une situation de challenge. Donc, d'où l'intérêt stress et cognition. C'est là que mon parcours académique m'a amené. Je suis dans ce laboratoire-là depuis 2 ans et demi environ. Depuis un an, je me suis recyclée en études du stress de la pandémie, comme un peu tout le monde dans le domaine, par nécessité. C'est vraiment là-dessus que mes travaux présentement se concentrent. Puis, on se connaît, Gabriel, depuis une dizaine d'années. On s'est rencontrés sur Réseau Contact back in the days. Puis on a gardé, je pense, une bonne relation professionnelle, amicale depuis ce temps-là. Donc, on a des intérêts qui se recoupent. C'est là qu'on s'est rencontrés.
Effectivement. Le temps passe si vite. Quand tu me dis que ça faisait 10 ans, je me dis, c'est... Le temps passe vite, en tout cas.
On avait moins de cheveux blancs.
Oui, effectivement. Mais les intérêts communs restent. Donc, mm-hmm. on va plonger donc, sans plus attendre, dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la question du stress. Peux-tu nous dire, premièrement, c'est quoi le stress? Parce que là, on a toute une image un peu naïve de c'est quoi le stress, genre je suis stressé aujourd'hui, ou t'es un peu tendu, ou t'as un stress, genre il y a un danger qui arrive. Mais dans nos sociétés modernes aussi, il y a plein d'autres types de stress qui sont... Genre, tu te lèves le matin, tu sais pas pourquoi t'es stressé ou s'est passé quelque chose. Puis là, il y a la pandémie, il y a un contexte particulier, on est tous stressés. Et voilà, fait que peux-tu nous dire un peu, c'est quoi le stress?
Oui, en fait, le stress, comme tu l'as bien décrit, dans la société, c'est un peu un terme parapluie dans lequel, dès qu'on a une émotion négative, on dit « je suis stressé ». Si on retourne un peu à l'étymologie ou à où on a emprunté le mot « stress », pour l'étude du stress humain, c'est à l'étude des matériaux. Quand on bouge un matériel, quand on met un poids sur une poutre d'acier, on la stresse. Donc, c'est vraiment de là que le mot vient. Donc, un matériau qui résiste bien au stress de l'environnement, aux forces qu'on appuie dessus, est un matériau qu'on dit résilient. Donc, ces mots-là ont été empruntés dans l'étude du stress de l'animal et de l'humain. On a commencé à étudier le stress chez l'animal parce qu'on peut faire plus de choses aux animaux qu'aux humains en recherche. Donc, on a appris à comprendre comment est-ce que le corps réagissait à des forces, à des stresseurs, à des forces externes qui viennent challenger le corps ou la survie de la personne. Donc, quand on est vraiment là purement sur la définition pure et dure du stress, un stresseur, c'est une menace à la survie. OK? Donc, c'est quelque chose dans notre environnement ou à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, un cancer peut être un stresseur. À l'extérieur, un autobus qui va nous rentrer dedans est aussi un stresseur. Donc, quand on a une menace directe à notre survie, on dit qu'on a un stresseur qui est absolu. Par contre, comme tu l'as dit, en fait, en société présentement, on a surtout des stresseurs qu'on appelle relatifs. Donc, moi, si je me lève le matin et que je vois que mon inbox a 25 nouveaux messages, moi, ça va me stresser. Mais il y a des gens où est-ce que leur inbox est rendu à 275 et ils sont comme « bah ». C'est tout des spams, de toute façon, ça ne me dérange pas. Donc, la même situation externe peut être perçue ou non comme une menace. C'est entre autres ce qui fait, donc une des raisons qui fait qu'on n'est pas stressé pour les mêmes raisons ou de la même manière. Puis quand on regarde ces situations relatives-là, bien, on peut les décomposer en quatre. Donc, il y a quatre facteurs ou quatre aspects psychologiques un peu qui génèrent cette perception de menace-là dans une situation qui en fait aucun danger pour ma vie, là. À moins qu'il n'y ait aucun courriel qui peut être de vie ou de mort ici et maintenant. Donc, ces quatre caractéristiques-là, on a l'acronyme CINÉ. Donc, C pour contrôle, I pour imprévisibilité, N pour nouveauté, puis E pour égo menacé. Fait que ça, de s'en rappeler, ça aide un peu à voir qu'est-ce qui présentement dans ma boîte de réception pleine à craquer, pourquoi ça me stresse. Est-ce que c'est parce que ben, j'ai l'impression que je ne suis pas une bonne professionnelle puis que je suis en faute face à mes collègues? Donc là, mon ego est menacé parce que j'ai l'air pas bonne. Ou est-ce que c'est parce que ben, c'est tous des courriels que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, c'est toute la nouveauté. Puis, je ne sais pas comment je vais devoir réagir. Donc, il y a un peu, on peut regarder ces quatre aspects-là d'une manière différente. J'en ai expliqué deux, mais il y a la sensation de contrôle. Donc, est-ce qu'on a l'impression que nos actions vont avoir un impact sur la situation qui est menaçante ou pas? Puis, imprévisibilité, est-ce qu'on pouvait prédire que la situation allait arriver? Donc, on a ces quatre aspects-là qui nous permettent de décortiquer les stresseurs ou les événements dans notre entourage. Et puis, on différencie aussi le stress des émotions. Le stress est plus la réaction de notre corps, donc on va avoir une réaction en anglais qu'on appelle fight or flight, donc combat ou de fuite, qui est un peu gouvernée par notre réponse d'adrénaline au départ. Puis par la suite, on va avoir une deuxième hormone qui s'appelle le cortisol, qui, elle, va s'assurer que notre corps continue d'avoir l'énergie nécessaire pour s'enfuir la menace. Donc, dès qu'on a un stresseur dans notre environnement, on a cette réaction-là dans notre corps, donc qui a cette cascade de molécules-là, qui vont préparer notre corps à faire face à la menace. Dans le temps où la menace, c'était un mammouth, c'était un tigre à dents de sabre, c'est super pratique d'avoir de l'adrénaline pour courir, s'enfuir, le combattre. Mais face à une boîte courriel pleine ou à un boss qui nous dit que notre article n'est pas super, c'est pas aussi utile.
C'est un peu là que je voulais en venir aussi, parce que j'ai l'impression que de nos jours, on dit que le stress, c'est quelque chose de connoté négativement. T'sais, c'est plus maintenant une question de survie. Il ne faut pas stresser quand tu reçois. Il y a un genre de message qu'on nous dit. Si tu reçois, si tu stresses parce que tu as trop de messages, il faut que tu relaxes. Il faut un genre de message comme ça. C'est quoi qu'il y a de mal au stress? C'est quoi l'aspect problématique? Ou pourquoi est-ce qu'on devrait être plus relax puis moins stressé?
En fait, le stress est super utile. Donc, quand on regarde, disons là, on est en audio, c'est un peu plus difficile, mais je vous demande de vous imaginer un graphe XY avec sur X le niveau de stress que vous avez, puis sur Y votre niveau de performance. Bien, on a un peu une parabole, donc on a de très bas à très élevé, puis on redescend. Donc, il y a comme un niveau de stress optimal dans lequel on va performer d'une manière qui est à notre meilleur. Donc, si on arrive pour faire une entrevue pour un podcast, disons, puis qu'on n'est pas du tout stressé, bien, on va oublier qu'il faut qu'on parle de l'axe hypothalamo-pituitaire-surrénalien, puis on va oublier c'est quoi notre acronyme CINÉ parce que je ne suis pas assez stressée, donc je ne suis pas capable d'aller rechercher l'information dans ma mémoire. Même chose si on se réveille le matin puis qu'on est zéro alerte, on n'a pas encore pris notre café puis on s'en va, tu sais, d'aller prendre le métro, bien, ça se peut qu'on ne remarque pas des stimuli dans notre environnement, une voiture qui passe vite, quelqu'un qui ne fait pas attention quand il marche. Si on n'est pas assez stressé, pas assez alerte, on va avoir une faible performance. Donc, il faut quand même avoir un certain niveau de stress pour être capable de bien réagir à la situation. Mais quand on en a trop, ben là, ça vient diminuer parce que justement, notre système peut prendre une certaine quantité d'hormones de stress, mais à un moment donné, trop, c'est trop. Donc, c'est là qu'on va se mettre à avoir un blanc de mémoire dans un examen, qu'on va se mettre à soit avoir une crise de panique, qu'on va se mettre à vraiment avoir une performance qui diminue, en fait. Donc, le stress est utile à un certain point.
Ça doit être quelque chose qui est difficile à étudier parce que là, le stress, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la nature ou dans notre milieu quotidien. Mais c'est difficile d'aller de prendre des gens dans un laboratoire puis leur dire soit stressé maintenant, soit il y a des gens qui vont arriver dans le laboratoire puis vont déjà être stressés en disant oh my god, je suis dans un laboratoire, puis d'autres qui ne le seront pas. Puis j'aimais bien l'image que tu disais, qu'on en parlait un peu tantôt. On ne peut pas juste tester les gens en leur envoyant des voitures, leur foncer dessus à chaque fois, en disant oh, c'est juste un test. Fait que, comment est-ce qu'on fait pour étudier ça?
En fait, avec la réalité virtuelle, ça se peut que ça devienne possible. Donc, à voir, mais présentement, de la manière dont on teste le stress en laboratoire, donc on étudie le stress, on a des études plus observationnelles, un peu comme toutes les sciences médicales, sociales, épidémiologiques, qui nous permettent de comprendre le développement du stress à long terme. Mais quand on veut regarder la réponse à un stress qui est vraiment ponctuel, un stress momentané, là, en labo, c'est un peu plus compliqué parce que, justement, on ne peut pas créer une situation de stress absolu devant notre personne. On a des comités d'éthique à la recherche pour une très bonne raison. Donc aussi, on a le fait que nos participants y arrivent. Notre laboratoire est dans un centre hospitalier un peu reculé. Ils se sont perdus, ils se sont mélangés. C'est un vieux building weird. Ils savent pas, ils arrivent stressés dans notre laboratoire. Donc, on a même ça, on a un niveau de base qu'il faut considérer. On leur laisse en général quelques minutes pour se calmer. Mais on a même, justement, en arrivant au laboratoire, des niveaux de stress qui vont être différents. Souvent aussi, en fait, toujours, on fait notre testing l'après-midi. Donc, quand on a des gens qu'on amène dans le laboratoire, on les amène l'après-midi parce qu'au quotidien, quand vous vous réveillez le matin, vos niveaux d'hormones de stress, j'ai parlé très brièvement tantôt du cortisol, sont à l'heure plus haut. Donc, on a un rythme circadien de cortisol qui part de... Donc, on a un pic le matin, puis ça va descendre vers 2-3 heures l'après-midi. Puis donc, on va passer la nuit avec un niveau de cortisol bas, puis ça remonte quelques heures avant de se lever le matin. Donc, on a ce rythme quotidien-là. Et puis, si on teste le matin et que le cortisol est déjà dans le tapis, bien, on ne peut pas le remonter tant que ça dans le tapis plus que ça. Donc, c'est pour ça, en général, qu'on teste l'après-midi parce qu'on a un niveau de base qui est assez stable. Puis, c'est possible d'aller chercher une modulation des niveaux d'hormones de stress qui nous intéressent. Donc, on a ça. Puis, donc, on crée une situation psychosociale validée que je ne vous expliquerai pas nécessairement au complet ici, pour question de ne pas brûler les auditeurs si jamais ils veulent participer à une étude du centre. On a une situation qui inclut un peu les quatre composantes dont j'ai parlé. Donc, pas de contrôle sur la situation, imprévisible, nouvelle et qui va menacer l'ego. En tant qu'expérimenteur, c'est particulier à faire. Donc, c'est un peu... C'est difficile à faire les premières fois parce qu'on est un peu en train de torturer la personne, veut pas. On a des étudiants et des professionnels qui sont excellents, d'autres qui ne sont pas capables du tout. Donc, c'est quand même quelque chose de particulier. C'est des compétences particulières à développer, je dirais.
J'imagine. Mm-hmm. Et le contexte de la pandémie devrait changer un peu ou sans doute transformer les études sur le stress parce que la pandémie a fait qu'on est dans un mode où toutes nos habitudes sont changées, où on a plus de stress. J'ai l'impression, dans l'hypothèse, qu'on est plus stressé maintenant. C'est quoi l'impact que la pandémie a eu sur notre stress ou sur les recherches que vous faites?
Donc, sur notre stress, on est encore en train de le découvrir parce que, comme je le disais tantôt, on a des stresseurs qui sont ponctuels, on a des stresseurs qui sont chroniques, donc c'est pas la même chose. Le décours temporel de notre réponse de stress sera pas nécessairement toujours le même, toujours prévisible. Puis on n'est pas partis tous du même niveau. C'est pas comme si au jour 1 de la pandémie, mais déjà là, il n'y a pas un jour 1 de la pandémie. Il y a des gens qui étaient comme en janvier, qui savaient déjà que ça s'en venait, puis d'autres qui pensent qu'il n'y en a toujours pas de pandémie. Donc, on a cette variabilité-là, puis on avait tous notre niveau de stress de base. Donc, tu sais, quand on pense aux travailleurs, travailleuses de la santé qui étaient déjà hyper stressés au quotidien, puis on leur en rajoute un autre, c'est pas la même affaire que moi qui trouvais ça un petit peu tannant de m'aller au laboratoire, puis là, je suis bien contente parce que je reste tout le temps à la maison. Donc, on n'a pas une réaction qui va être constante. Puis en fait, ça se traduit dans les études qu'on voit présentement. Donc, comme j'ai dit tantôt, tout le monde s'est un peu recyclé dans le milieu pour venir étudier la pandémie parce que nos études ont toutes arrêté. Mais ce qu'on voit, donc il y a déjà des méta-analyses qui sortent sur les premières études par rapport à la santé mentale en pandémie. Quand on regarde la population générale, les différences de moyenne avant versus pendant la pandémie, il n'y en a pratiquement pas. Quand c'est pratiquement pas, voyons donc, tout le monde va pas bien, c'est la fin du monde, on est tous stressés. Mais en fait, c'est quand on regarde au niveau individuel qu'on voit les réponses. Il y a des gens que ça n'a pas changé. Il y a des gens que ça a vraiment empiré, puis il y a des gens que ça va vraiment mieux. Donc, après ça, quand on regarde au niveau de la moyenne dans la population générale, on ne voit pas tant de différence. Quand on regarde dans des populations plus spécifiques, plus à risque, personnes âgées, des gens qui ont déjà des maladies ou des conditions médicales, travailleurs, travailleuses de la santé, travailleuses essentielles, là, on voit une détérioration de la santé mentale à un niveau de groupe. Donc, là, on a quelque chose qui est plus clair comme signal. Mais dans les prochains mois, on va probablement avoir une approche un peu plus individualisée à la compréhension de la réaction à la pandémie plutôt qu'une compréhension de groupe. Donc, nous, c'est un peu dans cette optique-là qu'on s'installe présentement. Donc, nous, de notre côté, avec l'étude du stress, en fait, je vous parle des hormones, je vous parle de ce qu'on manipule en expérimentation en laboratoire. Mais une de nos mesures principales, c'est la salive pour aller mesurer les hormones. Je dirais que jour 1 de la pandémie, on n'a plus le droit de recueillir la salive. Puis honnêtement, je ne voulais pas en toucher non plus. Hein. Donc, on a mis stop complètement le 13 mars, à tous nos projets de recherche. Puis comme on l'avait vu venir un peu, on avait déjà commencé à faire quelques plans de contingence, il allait y avoir un confinement. Donc, on a été capable de se revirer très rapidement. En une semaine, on a pivoté tous les projet du laboratoire en même temps. Donc, quand on parlait tantôt du niveau de stress optimal pour performer, on s'est boosté tout le labo pour être au top de notre courbe. On a vraiment donné notre 100% dans ces deux semaines-là pour être capable de pivoter nos projets pour aller mesurer le stress de la pandémie. Donc, on a eu autant des projets qu'on avait déjà commencé à recueillir des données, puis où est-ce qu'on pouvait donc avoir une espèce de faux niveau de base. Puis ensuite, on pouvait aller regarder maintenant comment est-ce qu'il allait. Et puis, on a aussi parti une nouvelle étude complètement anonyme pour faciliter les choses côté éthique. Puis donc, d'aller voir la réaction dans les premiers mois de la pandémie. Donc, c'est vraiment là que nous, on s'est réorienté pour nos projets de recherche. Et puis, donc, on est en train vraiment de regarder qu'est-ce qui se passe dans les premiers mois. Puis, il y a justement une multiplication des projets de recherche qu'il y a eu à propos de ça. Donc, vraiment, les conclusions qu'on va avoir vont se faire dans les méta-analyses plus que dans les études individuelles, parce que toutes les études individuelles ont été faites très rapidement, donc ne sont pas toutes parfaites.
Vous avez encore beaucoup de travail.
Toujours. Mais...
c'est excellent. La recherche, c'est parfait pour ça. J'aimerais revenir donc un peu sur la notion de stress, puis les éléments stresseurs, sur ce qui est bien, ce qui est mal. Tu nous parlais de la courbe, à un moment donné, où il faut un peu de stress, il n'en faut pas trop, mm-hmm. Il faut un genre de juste milieu. Mais ce juste milieu-là, comme plein de juste milieu, c'est dans la théorie, c'est facile à dire, il faut que tu sois juste assez stressé, comme il faut que tu sois juste assez... Faut que tu manges juste assez, etc. Tout est toujours dans ce juste milieu-là. Or, je me demande... est-ce qu'il y a des éléments qui, dans le quotidien des gens ou dans la société, qui contribuent à stresser plus que ce qu'on aurait besoin? Parce qu'on a l'impression que les gens, de plus en plus, c'est dans les médias, on parle de stress sans arrêt, les médias sont hyper stressants, juste pour parler de mon expérience avec ça. Mais il y a plein d'autres choses, puis les gens ils disent « Ah, mais je suis vraiment stressé », puis ultimement, il y a des discours dans toutes les directions, il y a des gens qui disent « Mais là, c'est nos sociétés de performance qui nous poussent à être stressés ». Les parents aussi sont stressés parce qu'on leur demande de travailler, puis ils doivent prendre soin de leurs enfants. Il y a plein d'éléments stressés, puis les gens se disent de plus en plus stressés. Ou du moins, j'ai l'impression, c'est toi l'experte. Mais comment on peut penser ce genre de choses-là? Comment ça se passe? Est-ce qu'on vit dans des sociétés trop stressantes ou est-ce qu'on est juste dans le juste milieu, puis il nous faut un peu de stress, puis on se stresse trop avec ça?
Il y a plusieurs aspects dans ce que tu viens de me poser comme question. Je vais essayer de voir un peu comment la déconstruire pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que notre société est trop stressante présentement? C'est une question de perspective aussi de ce côté-là. Ce qu'on voit dans les médias, ce qui pogne, donc dans les médias, c'est ce qui est sensationnaliste, puis c'est ce qui nous fait réagir. Donc, c'est ce qui génère chez nous une réponse de stress. Parce qu'au final, notre cerveau est un détecteur de menaces parce qu'il veut s'assurer qu'on survive, de faire passer les gènes, de continuer la lignée. Donc, s'il y a quelque chose qui est une menace à notre survie, il faut la détecter puis il faut l'adresser. Donc, si on présente des menaces dans l'environnement médiatique, elles sont toutes importantes pour notre cerveau. Puis qu'on fasse face à un voleur pour vrai ou qu'on fasse face à un article sur une vague de cambriolage qui est dans le village d'à côté, ce sont les mêmes molécules, c'est la même réaction qui se passe. Différentes magnitudes, c'est certain, mais c'est le même système. Donc, quand on est dans un cas de fausse menace, entre guillemets, où est-ce qu'on lit à propos d'une menace qui n'a pas d'impact sur nous, on a toutes ces hormones de stress dans notre corps, puis on ne peut pas vraiment les utiliser. Donc, notre adrénaline, notre cortisol, c'est à quoi ils servent? C'est de nous donner l'énergie pour s'enfuir ou pour combattre. Donc, le cortisol va changer la manière dont on métabolise les glucides. Le nom complet de l'hormone, c'est glucocorticoïde. Donc, c'est relié à l'utilisation des glucoses. Donc, le niveau d'énergie dans notre corps va changer complètement quand on a une réponse de stress. Mais si on est assis devant notre ordinateur, puis que tout ce qu'on fait, c'est de continuer à scroller, on n'utilise pas du tout cette énergie-là. Ça fait partie des raisons pourquoi on se fait dire qu'il faut faire de l'exercice pour gérer notre stress. Donc, ça fait partie des raisons, ce n'est pas la seule. Mais donc, on a un environnement médiatique qui nous crée plusieurs fausses menaces qui sont imprévisibles, qui sont nouvelles, qui sont potentiellement dangereuses pour notre vie ou la vie des gens autour de nous. Donc, c'est des menaces, mais on ne devrait pas changer notre action au quotidien nécessairement par rapport à ces menaces-là. Donc, ça peut avoir un impact négatif sur notre niveau de stress. Ensuite, côté culture du travail, dont tu as parlé, définitivement, la surcharge de travail, le manque de ressources, il y a toute une littérature sur ce qui crée un stress au travail. Donc, le modèle le plus simple va venir mettre en opposition les ressources et les demandes. On a des demandes qui sont constamment en augmentation parce qu'il y a des pressions des marchés, parce que la compétitivité, parce que la gig economy. Donc, on a des pressions qui changent complètement. Donc, on n'a pas nécessairement plus de ressources, nous, au quotidien. On a quand même 24 heures dans notre journée, puis il faut endormir une couple là-dedans. Donc, il y a ce débalancement-là, mais qui dépend des domaines aussi. Donc, on a ces deux côtés-là pour les éléments de la société dont tu as parlé. Donc, il y avait ces deux aspects-là dans ce que tu disais, un peu la culture du travail, ensuite les médias, mais il y a aussi, puis c'est un peu relié à ça, mais de la manière dont on est socialisé autour du stress. Les médias en font partie, la culture du travail en font partie, la vie familiale en fait aussi un peu partie. Où est-ce qu'on apprend à être stressé, en fait? Donc, il y a de la transmission intergénérationnelle de la réponse de stress puis de l'anxiété. Donc, il y a une différence. Je vais peut-être faire la distinction entre stress puis anxiété. Le stress, la menace est à l'extérieur. Dans l'anxiété, la menace est dans notre tête. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais on est en train de la ruminer, on est en train de l'imaginer, on a les scénarios futurs. Donc, ce n'est pas une vraie menace dans le monde extérieur. C'est une menace qu'on se crée puis qui nous génère la même réponse de stress que si c'était une vraie menace à l'extérieur. Donc ça, on apprend le stress à travers nos parents, à travers l'école, puis si on apprend partout que ben, le stress, c'est pas bon, puis il y a une épidémie de stress, puis qu'on va tous mourir de stress, bien, ça nous apprend un peu à avoir peur de notre réponse de stress, alors qu'au final, bien, elle n'est pas si dangereuse que ça, puis elle peut même être utile. Donc si on l'entend nulle part, puis jamais, que notre réponse de stress peut être utile, bien, on se développe un peu un mindset, donc une manière de penser qui est très négative par rapport au stress, puis qui peut en fait être un cercle vicieux. Donc, on a peur du stress, donc le stress nous fait réagir mal, donc on a peur du stress. Alors, il faut peut-être briser ça. Ça, c'est une responsabilité collective aussi, dans laquelle les médias doivent changer la manière dont tu parles de stress, mais aussi un peu individuel d'apprendre ces choses-là, donc d'être exposé à ce type de compréhension-là. Mais donc, en effet, c'est surtout collectif dans la manière d'en parler, dans la manière de socialiser face au stress.
Cette question-là, la comparaison entre les gestions individuelles et collectives du stress, m'a soulevé une question que je vais garder pour dans quelques minutes, parce que j'aimerais revenir sur un autre truc que tu as dit qui est vraiment intéressant, sur le fait qu'on présente souvent le stress comme étant quelque chose de purement négatif qu'il faut éviter. Puis en fait, dans le discours que tu sembles avoir, c'est qu'on doit le prendre, on doit juste reconnaître que ça existe, que ça fait partie de ce qu'on a besoin, il nous en faut un peu. Puis la question, c'est de reconnaître que le mieux, c'est l'équilibre et pas juste de le chasser. L'autre chose que je trouve intéressante aussi, c'est le fait que tu vas dire, mais les médias sont un peu pour ça parce que leur modèle d'affaires ou ils nous encouragent à nous présenter des situations comme étant toujours un peu dramatiques. Puis là, plus on en consomme, plus on voit des situations dramatiques, puis là, qui nous stressent. Puis là, on est assis devant notre ordinateur, puis pour qu'on aille bouger pour se sortir de ce stress-là qui nous comme bombarde. Puis les médias sociaux sont faits aussi pour jouer sur ça. J'avais lu en philo, c'est une critique assez populaire de dire que, mais en fait, il faut moins consommer de médias parce que ça va jouer sur nos biais cognitifs, pas juste la question du stress, mais comme plein d'autres biais qu'on a dans la répétition et d'autres choses. Donc, j'ai discuté avec J'ai une autre entrevue avec d'autres psychologues avant de te rencontrer deux autres grandes chercheuses, Chloé et Émilie. Vous pouvez voir sur les biais cognitifs, mais ça revient un peu dans la question des médias ici. Fait que je pense que c'est deux trucs vraiment intéressants. Puis là, je vais revenir à une critique qui ou une question qui est liée à ça. Ultimement, dans le discours public, on dit toujours comme parce qu'il faut éviter le stress, chose que toi tu dis qu'il ne faut pas l'éviter nécessairement non plus, on dit toujours qu'il faut utiliser des stratégies comme la pleine conscience. Là, c'est à la mode, faire du yoga, faire plein d'activités pour relaxer. J'enlève pas les bienfaits de ce genre de trucs-là, mais on est toujours sur on devrait aller dans cette direction-là, pleine conscience, travailler sur soi individuellement pour lutter contre le stress ou chercher cet équilibre-là. Qu'est-ce que tu en penses en tant que chercheuse sur le stress de ce mouvement? Mouvement-là vers ce genre de pratique de gestion du stress. Je reviens un peu à ton point, qui est un peu individuel quand même. On dit tu dois faire du stress, tu dois bouger plus, tu dois faire du yoga, il y a 40 millions de sortes de yoga maintenant. Puis là, tu dois faire de la pleine conscience aussi. Qu'est-ce que tu en penses?
Il y avait deux parties à ta question, un peu le côté éviter le stress versus la performance, à quel point est-ce qu'on en a besoin. Puis ça, c'est un travail que chaque personne doit faire, en effet, parce que la collectivité ne peut pas savoir comment tu te sens à ce moment-là. Donc oui, il y a un rôle individuel, sauf qu'une réponse de stress ou une émotion négative ou une émotion positive, en fait, c'est de l'information que notre corps nous donne sur notre réponse à l'environnement. Puis c'est pas toujours notre corps ou notre pensée qui est à changer. Des fois, c'est l'environnement qui est à changer. Donc, il n'y a pas personne qui ferait des changements sociaux s'il n'y avait pas de réponse de stress face à l'injustice ou d'émotions négatives face à l'injustice. Donc, ces informations-là sont utiles, sauf que à trop haut niveau, ben ils ont un impact négatif sur notre santé. Donc, il y a un balance, en effet, entre la responsabilité collective et la responsabilité individuelle, de par le fait que, ben justement, il n'y a pas personne qui peut savoir en ce moment-ci comment toi, Gabriel, tu te sens et à quel point tu es stressé. Puis, tu te connais depuis plusieurs années, donc tu sais un peu ta courbe a l'air de quoi, quand est-ce que c'est un peu trop, quand est-ce que c'est pas assez. Donc ça, il y a juste toi qui peux réguler ton propre stress. Sauf que si tu es dans un environnement dans lequel il y a une crise du logement, on paie les étudiants gradués à la moitié de ce qu'on devrait, il y a peut-être une guerre civile bientôt au sud, il y a une couple de mois, on n'était pas sûr de ce qui allait se passer, toi, tu peux rien changer tout seul. Tu peux être un acteur de changement social, oui, mais c'est une question de changement social, c'est une question de comment est-ce qu'on utilise en fait l'information que notre corps nous donne sur l'environnement. Puis il y a aussi une responsabilité collective dans l'apprentissage de qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une émotion négative, d'intelligence émotionnelle, d'apprentissage de gestion du stress qui est collective un peu aussi. Si c'est la responsabilité de chacun, chacune, de se développer sa boîte à outils puis de lire son guide d'auto-soin du gouvernement, ben c'est des millions d'efforts individuels au lieu d'un effort de groupe qui est peut-être un peu beaucoup d'énergie perdue. Donc, de ce côté-là, c'est complètement d'accord. Il y a une responsabilité collective à l'éducation par rapport à l'intelligence émotionnelle, mais aussi à la création d'un environnement qui crée moins de réponses de stress. Donc, ça, c'est clair que c'est les trois composantes qui touchent là-dedans. Nous, en tant que chercheurs sur le stress, on se concentre plus sur la personne que sur l'environnement parce qu'on s'intéresse aux hormones, sauf que il y a de plus en plus de littérature sur des gens qui ont vécu de l'adversité précoce, donc dans des situations soit de guerre ou soit de maltraitance, puis donc de comprendre les effets individuels de ces problèmes sociaux-là. Parfois, c'est une manière de venir convaincre les décideurs publics qui sont plus intéressés à l'individu qu'à l'environnement. Regarde, des payeurs de taxes, ils ne seront pas capables de travailler si tu ne leur donnes pas un bon milieu social. C'est malheureux, mais parfois, ça peut convaincre. Donc, ça fait partie un peu de ce rôle-là.
Je te parlais tantôt du fait qu'on était assez capable de reconnaître notre baseline, notre situation particulière de gestion du stress. J'aimerais poser une question, puisque je sais que tu as fait un peu de recherche là-dessus aussi, mais dans le monde académique, moi, je viens de sortir d'une thèse de 5 ans, et là, depuis les dernières semaines, je me sens vraiment moins stressé, puis c'est vraiment déstabilisant, parce que j'avais l'impression que ma baseline, ma base de stress était immense depuis pendant plusieurs années, puis je le remarquais plus, je me disais, mais c'est normal de vivre dans cette situation-là. Puis là, maintenant, je me, je, j'en je suis tombé malade, je me suis effondré, j'ai dormi vraiment beaucoup. Des fois, je dormais pas parce que je sais pas comme. Puis je me levais, puis je me disais, il n'y a pas de stress, j'ai comme pas d'obligation stressante, j'ai pas de thèse à écrire. C'était vraiment un sentiment étrange qui est lié au stress. De quelle manière est-ce qu'on peut comprendre ça? Parce que le baseline, c'est des fois, ça peut changer, puis ça peut avoir un impact sur notre vie.
Là, ce dont tu parles, c'est appliqué aux études graduées, mais en fait, c'est un stresseur qu'on appelle un stresseur chronique. Donc, il est là tout le temps. Toujours, tous les jours. Un peu comme la pandémie, en fait, ou comme le fait de vivre dans une situation familiale difficile. Donc, c'est un stresseur qui est là au quotidien. Puis quand on a le même stresseur tout le temps, non-stop, notre système s'adapte. Donc, on a ce qu'on appelle l'homéostasie, que vous avez souvent, sûrement tous et toutes déjà entendu parler, où est-ce qu'on a notre point d'équilibre dans notre corps, puis le corps essaie de travailler pour pas trop en dévier. Mais quand on est face à un stresseur qui est chronique, ce point-là bouge. Donc ça s'appelle l'allostasie. Donc, plus nos points d'équilibre bougent, plus on a une charge allostasique qui est élevée. Puis c'est ça qui peut avoir un impact sur notre santé physique, notre santé mentale aussi, mais entre autres sur notre santé physique. Donc, comme on change notre point d'équilibre, si le stresseur part d'un coup parce que tu as fait ta soutenance puis c'est terminé, bien, notre système est en déséquilibre encore une fois, puis il faut se réajuster. Donc, il y a ce réajustement biologique-là, mais il y a tout l'aspect psychologique aussi qui vient jouer à ça parce que soudainement, ben OK, j'avais ça qui prenait tout le sens de ma vie. Qu'est-ce qu'il y a par la suite? Donc, si je faisais ma thèse 8-10 heures par jour, j'ai 8-10 heures à remplir maintenant. Donc, il y a un côté psychologique aussi, mais biologiquement, c'est un peu ça qui se passe. Aussi, quand on a un stresseur qui est chronique, donc pendant ta thèse ou pendant qu'on est en pandémie puis qu'on est stressé à un quand même bon niveau au quotidien, notre système va s'adapter, comme je disais, mais ce que ça fait, c'est qu'on n'a pas toujours la même réaction aussi forte. Donc, à chaque fois qu'on voit le nouveau nombre de cas par jour, ce n'est pas aussi fort que la première fois qu'on voyait les nombres de cas puis qu'on est comme « Oh mon Dieu, c'est fini, ça y est, la société va s'écrouler ». Donc, on a une réponse qui est moins forte dans le temps, à situation égale, sauf que ça nous rend plus sensibles à d'autres stresseurs. Donc, parce qu'on a un stresseur qui est constant, on s'adapte, mais après ça, s'il y a quelque chose qui se rajoute, mais là, c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase. Donc, souvent, c'est là qu'on parle plus d'avoir plus d'irritabilité, plus de colère spontanée. Donc, ça se peut que maintenant que tu aies soumis ta thèse, tu trouves que tu as beaucoup plus de patience envers tous et chacun. Donc, ça se peut que ça fasse partie un peu des effets secondaires positifs du fait de ne plus être stressé de manière chronique, puis de juste avoir le stress chronique de la pandémie à la place du stress chronique de la pandémie, puis de la thèse.
Juste un stress chronique, ça me semble bien. Je pense que ramener cette situation de base-là, moins stressée, me semble très bien. Mm-hmm. Donc, une autre question qui me semble avoir un lien avec ce qu'on a discuté, parce que là, on dit, bon, la thèse, c'est quelque chose qui est un peu en mon contrôle quand même. La pandémie, c'est pas trop en notre contrôle. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous aider à redistribuer ce point d'équilibre-là puis le rendre plus bas? Il y a des gens qui vont dire, mais puis je reviens encore à la question pleine conscience, méditation. Est-ce que c'est des pratiques qui affectent durablement la question du stress? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais là, c'est super important, il faut adopter des pratiques bouddhistes, se défaire du stress qui vient de l'extérieur. Là, les gens ne voient pas, mais là, je fais des genres de signes de méditation. Exact. Est-ce que la recherche sur le stress s'intéresse à ce genre de stratégies-là, qui sont des stratégies que vous pouvez évaluer, j'imagine? Puis on entend ponctuellement parler dans les médias qu'on a étudié des moines bouddhistes qui avaient une capacité à être vraiment zen contre plein de stresseurs.
Leur cerveau à 70 ans, l'air du cerveau de quelqu'un de 40 ans, puis c'est des surhommes et des surfemmes.
Exact.
Cette science-là est très, très, très transformée en spectacle. Donc, c'est clair qu'on voit un peu ce qui est plus spectaculaire, ce qui est plus flamboyant de cette science-là.
C'est encore les médias.
Oui, toute la photo média, dans le fond. mais pour ce qui est de la pleine conscience, de la gestion du stress, ce qui est important de comprendre dans la gestion du stress, c'est qu'il n'y a pas juste une solution qui fonctionne. Puis malheureusement, quand on parle de yoga, de pleine conscience, etc., il y a souvent une pensée un peu plus dogmatique comme de quoi c'est la panacée. Alors que ce ne l'est pas du tout. Ça peut l'être pour certaines personnes, oui, tant mieux, mais pour d'autres, non, pas nécessairement. Puis c'est pas la solution à appliquer dans tous les contextes nécessairement. Si on vient de sortir d'un gros stresseur, puis qu'on a justement là, plein de cortisol, plein d'énergie qui roule en dedans de nous, bien, de s'asseoir et d'essayer de méditer, c'est peut-être pas la bonne idée à ce moment-là. C'est peut-être mieux d'aller courir un peu ou d'aller prendre une marche ou de bouger, faire des push-ups, whatever. Donc, une adéquation entre la situation puis la stratégie qui est importante. Donc, il y a des stratégies psychologiques. Donc, quand on parlait des ingrédients du stress, bien, de déconstruire un peu le stresseur, qu'est-ce qui nous stresse, puis de voir comment agir sur ce qui nous stresse le plus dans la situation. Donc, l'aspect de la situation qui nous stresse pour vrai, d'essayer de retravailler cette situation de manière interne. Des stratégies plus globales dans lesquelles, bien, si on est fâché à cause... donc, si ça nous stresse de voir les changements climatiques puis de les voir dans le média tout le temps, bien, peut-être que ça va nous forcer à changer nos habitudes de vie. Donc, en reprenant le contrôle sur une situation qu'on ne contrôle pas, bien, on est en train, en fait, d'adresser notre stresseur. Fait que peut-être que d'utiliser vos sacs recyclables, ça fait partie de votre gestion du stress. Mais tout ce qui est méditation, yoga, etc., il y a un ingrédient actif qui est réel. Puis souvent, c'est la respiration, en fait. Donc, quand on est stressé, notre respiration va devenir plus... en superficie. Donc, on va respirer plus vite, puis on va respirer, on est un peu plus pogné. Puis quand on médite, souvent, ben on va aller respirer vraiment pleinement avec le diaphragme. On est plus, en fait, dans la respiration profonde. On se fait, en étant notre ventre, on ne fait pas juste monter les épaules pour respirer. Puis notre diaphragme, en fait, est relié avec notre système nerveux sympathique qui est relié, en fait, qui génère notre réponse de combat ou de fuite. Donc, de manière volontaire, activant notre diaphragme au maximum, on est en train de dire à notre système, il n'y a pas de tigre qui est en train d'essayer de m'attaquer présentement, ça va. Donc, on force notre corps à comprendre qu'il n'est pas en danger. Donc, il y a un effet physiologique de la respiration profonde. Par la suite, la méditation, de la manière que c'est présenté dans les médias, souvent, c'est avec des hyper-méditateurs, donc des gens qui font ça au quotidien, dans toute leur vie. Puis là, côté méthodologique, bien, on a un tas de problèmes. C'est aussi des gens qui sont végétariens, qui habitent sur une montagne qui sent de l'air pur, qui n'ont probablement pas de conflit avec leur famille. On a un tas de variables confondantes qui peuvent aussi venir jouer dans leur état neurologique, leur état psychologique. Donc, on n'est pas en train de... Si on compare un exécutant dans une banque qui mange du fast-food 3 fois par jour avec un moine bouddhiste, c'est sûr qu'on va trouver des différences. Donc, le comparatif n'est pas réel. Après ça, la manière dont c'est amené, entre autres en entreprise, peut être problématique parce que souvent, ça va être apporté d'une manière, comme on disait, plutôt individuelle. De, bien, gère ton stress, là, va faire ta méditation dans une petite salle, puis après ça, reviens te faire crier après par ton boss. T'sais. Donc, je caricature, mais des fois, c'est pas si loin que ça de la réalité. Donc, est-ce qu'on est en train un peu de mettre un band-aid sur une plaie ouverte? Parfois, ça peut être le cas. Puis c'est aussi, les gens sont pas imbéciles, ils voient. C'est un peu insultant de se faire dire, quand on est un travailleur, une travailleuse de la santé qui travaille 65 heures par semaine, ben, fais juste un petit peu de méditation. Donc, il y a un côté insultant là-dedans aussi, parfois, qui vient puis qui crée un peu cette réaction-là aux techniques de respiration, de méditation. Ils ont un impact, oui, c'est pas une panacée, puis c'est pas la seule chose qui devrait être mise en place.
Encore une fois, beaucoup de nuances sur ce qu'on peut faire. Il y a des trucs positifs. La respiration, c'est souvent vendu, comme tu disais, avec un genre de biais de sélection là, sur les grands méditateurs, les gens qui font juste ça, puis qui ont peut-être plein d'autres variables dans leur vie qu'on n'est pas au courant, puis on essaie de les prendre pour modèle, mais parfois, c'est difficile à évaluer. Puis évidemment, un peu, j'ai l'impression que le message que tu sembles dire, c'est faut toujours c'est le juste milieu encore. Faut choisir des stratégies qui nous déstressent, mais le stress, ça peut être bien dans certains cas. Faut utiliser les bonnes stratégies. Parfois, c'est mieux d'aller courir ou danser ou faire d'autres activités que de rester sans bouger quand notre corps a besoin de bouger. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de recherches à faire parce que c'est plus complexe qu'on imagine la question du stress. Exactement. Et il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de vendeur de thérapie miracle qui va régler nos problèmes de stress ad vitam aeternam.
Complètement. Puis aussi, un problème qu'on a dans l'étude du stress, ça revient un peu à ce que j'ai dit il y a quelques minutes sur le fait qu'on regarde souvent les groupes au lieu des individus. Donc, quand on regarde les groupes, souvent, on a l'impression que cette intervention-là, elle ne marche pas. Puis, le taux d'intervention-là, elle marche un petit peu, mais pas tant que ça. Donc, on perd nos effets parce qu'on regarde des groupes de gens plutôt qu'on regarde, on regarde pas assez l'adéquation entre la personne et la solution. Donc, on a le standard dans les sciences qui sont plus biomédicales de l'essai randomisé contrôlé, hein? Mais l'essai randomisé contrôlé ne contrôle pas le fait que c'est toutes des personnes différentes qu'on a devant nous. C'est pas des rats de laboratoire clonés un à l'autre, donc avec le même code génétique. Donc, oui, on a beaucoup de personnes dans notre essai. Ça diminue le bruit, mais ça n'enlève pas le fait que chaque personne a un système qui est différent, a un point de base qui est différent, a développé son système de stress d'une manière différente. On n'a pas beaucoup parlé, mais si on a vécu une enfance plus difficile, notre système de stress ne va pas réagir de la même manière que si on a été élevé dans la ouate. Donc, on a chacun un système qui est complètement différent, puis souvent, on compare des pommes avec des oranges quand on essaie de voir qu'est-ce qui marche pour tout le monde tout le temps.
J'ai l'impression, puis là, c'est à la fois une impression puis une question, que ça doit aussi peut-être changer quand on essaie de faire des études. Il y a les questions du genre, de l'origine, il y a plein d'autres facteurs. Je ne sais pas comment les expériences que vous faites, mais ça doit être difficile de trouver des candidats. T'sais, dans le monde de la recherche, il y a beaucoup de jeunes bacheliers qui viennent dans vos labos, mais ce n'est peut-être pas toujours représentatif aussi de d'autres populations. Puis je sais que vous en êtes consciente puis qu'on essaie d'élargir. Mm-hmm. Mais sur les réponses au stress, si tu dis que ça peut changer par classe sociale, par situation socio-économique, ça peut changer aussi par genre ou par communauté ou par origine ou de d'autres manières aussi.
Complètement. J'ai un collègue d'ailleurs dans le centre qui travaille spécifiquement sur ces questions-là, donc sur sexe, genre, sexualité et réponses de stress et allostasie. Donc, c'est des questions qui sont vraiment à la frontière présentement parce qu'en effet, tu sais, on vient d'un milieu qui est très biomédical, qui était très sexe, puis on va commencer peut-être à penser un peu au genre. Donc, c'est un milieu qui était très conservateur puis qui commence à être en transformation. Nous, de notre côté, on a un problème dans lequel on recrute pratiquement juste des filles. Donc, on est en psycho, oui, mais aussi, on fait la recherche en santé mentale, intéresse et attire surtout des femmes, des filles, plus que les hommes, ce qui est un problème en soi parce qu'on connaît moins de choses sur la réponse des hommes que celle des femmes.
C'est bien connu que nous, on n'a pas de stress, évidemment.
Mais non, voyons donc. Donc, par contre, quand on a des études qualitatives, nos femmes nous disent que ben, leur chum est stressé. Et dans des couples gays aussi, mais donc on le sait. Donc, on a ce problème méthodologique-là de notre côté, mais il y a de plus en plus justement d'ouverture de ce côté-là, puis aussi avec le collègue dont je parlais, qui lui travaille avec des organismes communautaires dans le milieu, donc de ne pas faire de la recherche sur les gens, mais faire de la recherche avec les gens, soudainement, ça change un peu la perspective. Puis ça permet donc d'inclure la communauté, d'inclure les gens qui étaient autrefois invisibilisés ou exclus. Donc ça, c'est vraiment vers là que la recherche sur le stress s'en va.
Je pense que c'est une bonne conclusion. On a parlé du stress, on a vu un peu les enjeux, on a parlé des médias, on a parlé des différentes formes de stress, de la gestion collective, individuelle. Et puis là, on voit un peu l'avenir de cette recherche-là ou les trucs qui restent à faire. Je pense que ça fait le tour. J'aurais plein d'autres questions, évidemment. Là, on aurait pu en parler longtemps. Mais je pense qu'on a bouclé une boucle, puis ça me fait absolument plaisir d'en avoir parlé avec toi. Alors, merci beaucoup, Laurence,
de nous avoir parlé.
Ça fait absolument plaisir. Et si tu avais des recommandations de choses à lire ou à consulter, à des ressources pour les gens qui veulent en connaître plus sur le stress, qui sont peut-être stressés eux-mêmes ou qui ont peut-être un chum ou une blonde ou des parents ou des enfants stressés. Ouais. Qu'est-ce qui serait une bonne ressource pour explorer ces enjeux-là?
C'est peut-être un peu prêché pour ma paroisse ici. Donc, au Centre d'études sur le stress humain, on a développé plusieurs programmes d'intervention qui sont en majorité gratuits. Donc, on en a un tout récent qui s'appelle « Surf ton stress », qui est pour les ados. Mais en tant qu'adulte, tu l'écoutes, tu es comme « Ah ben oui, c'est utile ». Donc, ça parle un peu des enjeux qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, ça peut être utile pour des auditeurs, auditrices qui ont des jeunes ou qui connaissent des jeunes. Il y a aussi plusieurs livres qui ont été publiés qui sont utiles, qu'on pourra peut-être mettre en lien quelque part. Entre autres, deux livres de ma directrice, donc Sonia Lupien, qui est la vulgarisatrice de la province sur le stress. Il y a aussi d'autres livres qui sont super intéressants, entre autres sur le genre et le stress. Un livre qui s'appelle Burnout, qui peut être très utile, qui est très accessible, même s'il rentre assez en profondeur dans la science du stress. Donc, on pourra peut-être mettre en lien quelque part si
avec plaisir. Je vais mettre ça dans la description. Alors, les gens qui nous écoutent, faites-le voir dans la description du podcast. Vous devriez pouvoir trouver les liens qui ont été soulevés par Laurence. Merci beaucoup. Ça a été fort plaisant. Je pense que j'espère tout au moins que ça va aider nos auditrices et auditeurs. Moi, en tout cas, j'ai appris énormément et ça m'a fait plaisir de rejaser avec toi.
Bien, merci à toi puis au plaisir de rejaser pour d'autres choses. Bye.
Bye-bye. Cet épisode est fait en collaboration avec la Société de philosophie du Québec et les généreux donateurs et donatrices qui veulent bien soutenir le projet. Merci beaucoup encore à vous tous et toutes d'avoir confiance en ce projet et je vous souhaite une bonne fin de journée.